Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Voix Enchantées, l'émission d'une quinzaine de minutes qui donne la voix à des personnes sensibles à l'art et à la beauté. On retrouve notre invité, ses goûts artistiques, son texte personnel et sa bribe de phrase, juste après ça. Voix Enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter, je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour Samy.
Bonjour Louisa.
Comment ça va ?
Écoute, ça va bien, je suis hyper content d'être là.
Ben nous aussi, bienvenue dans l'émission. Est-ce que avant de procéder à toutes les étapes qui composent l'émission, tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, ce que tu aimes, si tu as des pratiques artistiques ?
Je travaille donc chez Canal+, donc chez un diffuseur télé. Et je m'occupe des séries télévisées. Je travaille un peu tous les jours avec en tout cas des auteurs, des scénaristes qui eux ont une pratique artistique. Je lis, j'écris et je... Donc ça c'est quand même une grosse pratique artistique au quotidien, mais
bah
qui est
ouais.
Un peu industrielle aussi. Et à côté de ça, j'écris un peu. J'aurais adoré dessiner, peindre ce genre de choses, tu vois, faire des arts plus visuels, mais je...
C'est pas trop tard, Samy ?
Non, c'est pas trop tard, mais tu sais, j'ai des mains un peu de bûcheron, et c'est hyper compliqué. Pour écrire mon stylo, je le tiens à quatre doigts, tu vois, donc c'est...
Okay.
Donc pour dessiner, je te laisse imaginer, voilà.
Alors, choix d'artiste. Comme chaque mois, l'émission, elle s'ouvre avec un choix d'artiste. Parmi vraiment une multiplicité de personnes, tu as dû choisir une seule personne. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi Riyad Satouf. C'est un auteur de bande dessinée et un réalisateur de cinéma. Et ce que j'aimais bien, déjà chez Riyad Satouf, c'est que c'est... Déjà, ça a paru très vite comme une envie de parler de lui. Et ensuite, c'est à la fois pouvoir parler aussi bien d'une forme de littérature, enfin de la bande dessinée en tout cas, et aussi du cinéma, avec deux approches très différentes de l'écriture. Et voilà, enfin tu vois, ne serait-ce que pour ça, c'était un premier choix. Tu vois, j'ai lu L'Arabe du futur, j'ai eu une espèce de grosse claque, parce que... Moi, j'avais un projet personnel d'écriture, de série ou de film qui se passait au Moyen-Orient. Et donc, j'avais envie de raconter un peu plein de choses sur ce Moyen-Orient que moi, je n'ai pas vécu comme lui. Je suis beaucoup plus jeune et je n'ai pas vécu tout ça. Et je me disais qu'il n'y avait aucune forme de représentation de ce monde arabe en France, tu vois. Le monde arabe est très maghrébin dans les représentations médiatiques et culturelles en France. Et donc, le Moyen-Orient n'existe pas trop, enfin, tu le vois pas tant que ça.
Mmh.
Ou alors de manière très orientaliste, très fantasmée.
Et je trouvais vis-à-vis des guerres ou de la violence.
Exactement. Et ce que j'aimais beaucoup quand j'ai eu L'Arabe du futur, je me suis dit, ah putain, c'est ça en fait, c'est aussi cette vie de village, en tout cas les premiers tomes, parce que la suite devient un peu plus sombre dans son histoire personnelle, mais t'as un truc un peu de, ah ok, en fait il raconte cette vie de village, cette vie un peu rurale du Moyen-Orient, ce rapport que t'as à l'Occident, alors moi ouais, dans un... des décennies plus tard et dans un tout autre contexte familial, mais donc c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était Réalisateur des Beaux Gosses, qui était un film qui m'avait énormément marqué quand je l'avais vu à l'époque au lycée, et je trouvais ça fou comment ce mec réussissait à raconter la jeunesse et raconter ses origines aussi, raconter ce qu'est être un homme comme il le fait avec Pascal Brutal.
Donc c'est aussi bien du côté des thématiques qu'il aborde que le fait qu'en fait il t'est surpris par ce qu'il raconte. Toi-même, c'est quelque chose d'intime que tu avais peut-être envie de partager, et t'ouvres un livre et hop, il se passe quelque chose en toi vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de ce que tu lis.
Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, t'as raison. Je m'étais jamais dit que c'était ça relevait de la surprise. Mais oui, t'as raison. Je pense que ça, c'est un peu ça. C'est aussi, tu vois, t'as de l'attente de ce que tu vas lire ou non. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus sur la guerre, justement. En plus, tu vois, quand j'ai la couverture de L'Arabe du futur, t'as quand même Kadhafi en énorme sur le premier tome. C'est des thématiques qui traversent un peu plein de choses que je suis, être un homme, être jeune, être d'origine étrangère, enfin tu vois, ça concerne plein de gens aussi. Je trouvais ça intéressant que cet homme, à travers un art un peu absurde, très marrant, décalé, réussisse à en parler et à me toucher, j'étais assez surpris effectivement. Ouais.
Et j'ai l'impression aussi que le côté beauté plastique ou un peu les codes de la société qu'il faudrait voilà, avoir pour être stylé dans cette société, il les moque un peu. Donc, il décale un peu la focale. Par exemple, les beaux gosses, c'est ça. C'est trouver du charisme ou de l'attachement dans des gens qui correspondent pas aux codes qu'on nous impose.
Ouais. Bah, y a un truc de sens de l'époque. Je trouve que c'est, globalement, artistiquement, c'est c'est l'époque des losers. Enfin, tu vois, il y a rien de plus fort aujourd'hui qu'un loser magnifique. Tout le monde veut être un loser magnifique. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire de dire ça, mais beaucoup de séries s'attaquent à ce sujet, beaucoup de films parlent de ce sujet, beaucoup de bouquins même, tu vois, ou tout ce que tu veux. Et ça devient la preuve avec l'œuvre de Riyad Sattouf, ça devient une culture majoritaire.
Pourtant, on est rentré déjà dans cette phase-là.
Ouais, complètement. Et je pense que Riyad Sattouf, son œuvre l'incarne complètement, tu vois.
Artiste loser magnifique, on continue en musique. Samy, on va maintenant écouter de la musique avec ton coup de cœur musical. Est-ce que, avant qu'on écoute, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
Le nom de l'artiste, c'est Issam Hajali, qui est donc un chanteur libanais. C'est très moyen-oriental, mes coups de cœur pour l'instant. Et le nom de la chanson s'appelle Interzin, qui veut dire « Attendez-moi ».
On écoute.
عنقي على السكين يا وطني ولكني أقول لك انتظرني ويا دايا خلف الظهر مقيدة ولكني أغني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني عنقي على السكين يا وطني ولكني أقول لك انتظرني ظهري مقيدة ولكني أغني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني أنا لم أخنك فلا تخني أنا لم أبعك فلا تبعني
Alors Samy, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce morceau ?
Déjà parce que de manière très simple, c'est un morceau que j'écoute en boucle depuis quelques semaines, quelques mois. Donc de manière assez évidente, quand il a fallu choisir une chanson, c'est un peu une de mes chansons du moment. Il y a un truc avec la musique arabe où tu vois, des fois ça peut être hyper... chiant, je sais pas comment dire, mais tu sais, très folklorique, très un peu agaçant. Et donc là, il y a un truc un peu plus rock, un peu plus folk, que je trouve hyper bien chez cet artiste. C'est très marrant parce que j'adore la première partie de la chanson, et quand l'instrumental à la fin m'agace. Et donc j'ai un rapport un peu bizarre à cette chanson où je la trouve hyper bien, mais vraiment un des meilleurs trucs que j'ai écouté pendant la première moitié. Et la fin, tu vois, tout ce qu'on vient d'entendre un peu à la fin, je trouve ça pas terrible.
Ah, et t'aimes donc... pas le contraste entre les deux? Parce que moi, justement, je me disais, ah, sympa, il y a le côté chaud au début.
Si, j'aime bien le contraste, je trouve ça cool musicalement, il y a un truc, une prise de position. Mais disons que vraiment d'un point de vue mélodique, j'aime pas trop la mélodie, l'instrumental d'après.
Et donc comment tu fais quand tu l'écoutes en boucle? T'écoutes que la première partie?
Non, je l'écoute en entier. Et en fait, Issam Hajali a fait un seul album qui était un peu perdu. Aujourd'hui, ce mec est cordonnier à Beyrouth. Il a complètement. Il fait plus de
changer
la musique.
Changer de voix, ouais.
Changer de voix, tout ça et tout. C'est un album très politique qui reprend des poèmes d'un poète palestinien dont j'ai perdu le nom. Mais donc là, cette chanson parle, en gros, le début dit Ranoukir à la Sekin. J'ai le couteau sous la gorge, en gros. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à son pays, qui est en exil et qui lui dit « Bon, ben, je suis loin, mais ça veut pas dire que je vous oublie. Attendez-moi. J'ai le couteau sous la gorge, j'ai les mains dans le dos, mais... »
Parce qu'il a fui le Liban, c'est ça?
Alors lui, il a fui le Liban.
Ça fait écho à sa situation.
Exactement,
à ce moment-là.
Et donc, il a repris ses poèmes pour faire cet album. Puis ensuite, il a eu un groupe. Et il refait cette chanson avec son groupe d'une manière un peu plus rock, que j'aime bien aussi, mais qui est différente. Cet album a complètement disparu. Et c'est le label Habibi Funk, qui est donc un label allemand, je crois, qui est parti, qui a retrouvé le truc, qui a réarrangé l'album et qui l'a ressorti, et qui sont allés retrouver le mec dans sa cordonnerie à Beyrouth, lui dire les autres versions que t'as faites avec ton groupe, on les trouve super et il faut qu'on les réédite, il faut qu'on en fasse un album qui soit disponible à tout le monde. Il était dépolitisé, il voulait plus entendre parler de ça et je trouve ça hyper drôle parce que moi, tu vois, ça m'est tombé dans les mains via une playlist Habibi Funk, en fait.
Et est-ce que quand tu écoutes ce morceau, t'es touché par le grain de voix, très chaud comme ça, ou alors par directement les paroles que tu comprends?
Alors, faut savoir que je parle arabe, mais je comprenais pas complètement les paroles. J'ai quand même dû avoir un petit moment de « Attends, qu'est-ce qu'il raconte, en fait ?» et repasser par l'écrit pour, tu vois, c'était pas automatique.
Mais t'as fait cette démarche, quand même.
J'ai fait cette démarche, ouais. Parce que je me disais « J'aime trop, j'avais envie de savoir ce qu'il racontait. » Enfin, tu vois, t'as un truc dans la tête, t'as envie de le chanter. En fait, j'ai envie de le chantonner aussi, c'est peut-être ça. Mm-mm. Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il dit exactement pour que je puisse le chantonner ?» Et c'est à ce moment-là que, tu vois, j'ai découvert que c'était « Oh, waouh, c'est hyper politique, en fait, comme discours. » Dans une mélodie quand même assez entraînante, un truc qui donne pas forcément envie de danser, mais qui me rend pas mélancolique, en tout cas la première partie. Et je trouve ça assez fort, tu vois, ça donne un peu envie d'aller en révolution, je trouve. Ça donne envie de lever le poing et de...
Bon, il faudrait un deuxième podcast pour parler de la deuxième partie du morceau.
Oui,
mais
non.
On n'a pas non plus trop de temps.
Non, passons à autre chose.
Allez, on y va pour le texte. Alors maintenant, c'est le moment pour toi de nous lire un texte que tu as écrit. Ça, c'est vraiment l'étape un peu phare dans le sens où c'est pas facile de lire quelque chose qui vient de soi, quoique tout ce qu'on dit ici vient quand même de soi. Est-ce que tu peux, avant de nous lire, nous expliquer quand est-ce que tu as écrit ce texte, si une anecdote se cache derrière cet écrit?
En gros, je participais à un jeu avec des copains, je crois que ça s'appelle Musical... Non, c'est pas Musical.ly, c'est ça, c'est l'ancien nom de TikTok. Je sais plus comment ça s'appelle. Musique quelque chose... Et en fait, tu fais des blind tests avec tes potes, c'est une application, et chacun doit raconter, c'est typiquement, il y a un thème, donc chanson que t'écoutais avec tes parents, ou chanson que t'écoutes quand t'es triste, chacun choisit une chanson, et les autres doivent deviner quelle chanson va à quelle personne. Mm-hmm. Et pour aider, tu rajoutes un texte. Tu mets un petit truc. Ouais, faudrait que je retrouve le nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Music League, ça s'appelle Music League. Et donc moi, j'avais écrit un texte pour une chanson qui était une chanson... je vais lire le texte et vous allez comprendre quel est le thème.
Ouais, là on a le contexte. En tout cas, ça a été écrit dans le cadre d'un jeu.
Exactement.
On t'écoute.
Dans la voiture de mes parents, il n'y avait que de la musique arabe. Fayrouz, Kalsoum et aussi de la pop libanaise des années 2000. Quand il n'y avait pas de musique, on écoutait les petites annonces de Radio Orient. Et je crois que c'est pire. On s'en remet. Je m'en suis remis. Mais à l'époque, je ne pouvais pas supporter ça. Par miracle, de temps en temps, mais pas souvent, des voix anglaises se faisaient entendre. L'album live de Simon & Garfunkel à Central Park. Mais pourquoi eux? Pourquoi eux plus que les autres? Vous dites aimer Brel, Bachung, Dalida, mais eux, ils n'avaient pas leur CD dans la voiture. Non, les gagnants, c'était deux chanteurs de folk dans un parc à New York. La première chanson de l'album était, et est toujours d'ailleurs, Mrs. Robinson. Alors comme tout le monde, comme vous, je l'adore cette chanson. Puisqu'on ne faisait jamais de très longs trajets, ou peut-être parce que vous n'aimiez que celle-ci, j'ai complètement oublié quelle était la chanson suivante. En revanche, je n'oublie pas ce refrain, ces mots qu'on hurlait à quatre, les sièges qu'on tapait en chantant. Alors pour ces instants, plus que jamais, God bless you please, Mrs. Robinson.
Merci beaucoup Samy pour ton partage de texte.
Merci.
Où tu nous parles de musique encore.
Ouais.
De Moyen-Orient.
Encore. Mais c'est bien, ça fait la transition.
C'est trop bien. Et de famille et de Mrs. Robinson.
Ouais.
Donc enchantée Mrs. Robinson et merci pour le texte de Samy. On va maintenant passer à l'œuvre phare, c'est-à-dire que tu as dû choisir parmi, pareil, une multiplicité d'œuvres, mais aussi de genres. Films, théâtre, pourquoi pas comédie musicale, série, livre. Enfin, la liste est longue. Toi, qu'est-ce que tu as choisi ?
Moi, j'ai choisi Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.
Sur un extrait de la BO du film signé Michel Legrand. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce film ?
Là, déjà, j'ai un peu la chialade, tu vois, donc c'est déjà une bonne réponse. Parce que c'est un truc de fou, quoi. Enfin, je crois que c'est l'hyper-densité de cette œuvre qui en fait une œuvre. Enfin, tu vois, s'il faut choisir un truc, c'est peut-être un truc qui, en tout cas, dans mon cas, transcende un peu tout. Musicalement, visuellement, artistiquement, dans le texte, enfin dans les mots, enfin tu vois, tout est c'est hyper dense, c'est hyper audacieux. Enfin, c'est un film entièrement chanté pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est quand même, c'est pas une comédie musicale. Enfin, c'est plus ou moins une comédie musicale, mais c'est pas des moments de parole puis des moments de chanson. C'est une longue chanson pendant.
C'est une esthétique complète, un peu folle d'ailleurs, non?
Ah mais c'est fou. On a vraiment ce truc de la musique. Enfin tu vois, on parle du fait que, enfin je sais pas qui, mais je veux dire le premier rapport que t'as à l'œuvre, enfin le premier choc que t'as à l'œuvre, c'est le fait que ça soit tout le temps chanté. Donc t'as une espèce de mélodie continue, tout le monde parle, tu vois. Là sur le thème, tu vois, à un moment Geneviève qui dit je ne pourrais pas vivre sans toi. Enfin bref, tu vois, c'est comme ça. Mmh. Donc ça c'est le premier choc. Et ensuite t'as un deuxième choc. Moi, je l'ai vu, je pense, 10-12 fois, ce film, j'en sais rien. Ensuite, c'est les couleurs. Il y a un truc sur les couleurs dans ce film, sur la juxtaposition de couleurs. Il y a notamment des scènes où Catherine Deneuve, enfin, notamment une scène, par exemple, où elle est avec une robe bleue à fleurs, juste devant un papier peint bleu à fleurs. Et donc, il y a toujours ce jeu-là où chaque couleur se répond, chaque chose est pensée. Tu vois, si elle a une petite broche marron, bah, y aura un petit vase marron qui ira en rappel avec sa robe rose sur un papier peint rose. Enfin bref, il y a un truc dans les couleurs qui est hyper beau.
Est-ce qu'à chaque fois que tu as revu le film, tu as découvert de nouveaux détails ou pas ?
Ouais, plus le gros détail, entre guillemets, que j'avais pas réalisé les premières fois que j'avais vu, c'était les miroirs. En fait, il y a énormément de jeux sur les miroirs dans le film. Avec tout, derrière, on peut filer une symbolique, la vanité. Enfin bref, tu vois, c'est un film qui parle un peu de ça, qui parle aussi du rapport à soi-même, de la vanité. De
l'amour aussi.
Oui, ouais, je sais pas, est-ce que le miroir, ouais, si.
En tout cas, le film parle d'amour, c'est ça que je voulais dire.
Ah,
ouais.
Oui, le film parle d'amour, ça c'est évident. C'est vrai que, tu vois, j'ai parlé de tout ça, j'ai même pas parlé de l'histoire, alors que l'histoire est folle, enfin tu vois, c'est... Et en même temps, elle est pas si compliquée que ça, tu vois, c'est un scénario qui tient sur quelques lignes d'une histoire d'amour un peu impossible, mais magnifique, et tu vois, c'est cette hyper densité de tout ce qu'il y a autour... Qui en fait une histoire de fou, mais qui moi je chiale à chaque fois aux trois mêmes moments de l'histoire et j'ai beau le voir et le revoir, je sais qu'à chaque fois ça va marcher sur moi.
En tout cas, l'émotion est là tout le temps.
Exactement.
On passe maintenant à la dernière étape, la bribe de phrase.
Hey, listen, you're too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something.
On clôt chaque mois l'émission par une bribe de phrase que tu as entendue dans ton entourage, dans la rue, les transports, ce petit moment où tu attrapes au vol une phrase. Est-ce que tu peux nous dire quand c'était ? Ça t'a peut-être marqué, choqué, fait rire, et surtout, bah, nous dire la phrase.
Écoute, j'avais une phrase de base, et il m'est arrivé un truc hier. Et je me suis dit, oh waouh, cette phrase est super drôle à dire en fait. Là, je trouvais l'anecdote super, et je trouvais la phrase assez marrante. Et donc la phrase, pardon, c'est « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter ». Et c'est une phrase que m'a dit un médecin hier. Je vais faire un petit examen médical pas très compliqué. Et j'avais une injection de pas prévue, une piqûre. Et un peu en chochote, je me suis dit « Oh, j'étais pas prévu, j'étais pas au courant, tout ça. » Et bon, je me dis « Vas-y, c'est bon, t'es un grand garçon, on peut te faire la piqûre. » Et il me dit « Monsieur, vous êtes très stressé, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. » Il me l'a répété 2-3 fois, tu vois. Et à chaque fois qu'il me disait, je faisais... Pire, c'est que ça marche, tu vois, c'est un peu performatif comme phrase. Et... en fait, il a hyper mal fait le cathéter. Et mon bras est. Et, genre, le truc, c'est un peu pété dans mon bras pendant le truc. Bon, ça va mieux là, 24 heures après. Mais j'avais le bras hyper gonflé, je devais le garder en l'air, c'était la catastrophe. Il y a des poches de glace un peu partout. Et je le regardais et je repensais aux trois fois où il m'a dit il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et après, j'ai un peu réfléchi, je me disais putain, c'est marrant parce que, à la fois, c'est son rôle de médecin, bien sûr qu'il faut qu'il me dise ça, il ne peut pas te dire le contraire. Et je trouve cette phrase hyper forte. Parce que même si c'est faux, ça m'a rassuré au moment où je l'ai entendu. Et même quand après, en fait, il y avait eu des raisons de s'inquiéter, je me suis dit « Oui, mais il allait pas me le dire, il allait se passer ça, il y avait aucune raison que ça se passe. » Et je sais pas, je trouvais que c'était une... Je trouve que c'est une phrase...
Que tu pourrais te dire à toi-même aussi.
Ouais, en fait, c'est ça.
Bah écoute, il y a aucune raison de s'inquiéter, on va clore l'émission sur ça.
Exactement.
Merci beaucoup, Samy.
Merci à toi.
Merci à Rosalie Bern à la réalisation. On se retrouve pour un nouvel épisode le 5 mars à 18h sur les ondes de Radio Campus Paris.